Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Inhumation hier au cimetière ancien combattant de Nyiragongo, des 35 corps des victimes des bombardements le 3 mai dernier de deux sites des déplacés de Mugunga au nord Kivu. L'enterrement a été présidé par une cérémonie d'hommage au stade de l'unité à Goma en présence des délégations du gouvernement et du parlement ainsi que des membres des familles de ces victimes. La liste définitive des candidatures retenues pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est connue depuis hier soir. Vital Kamerhe, Jean-Claude Tshilumbay, Christophe Mboso, Jacques Djoli, Chimène Polipoli et Caroline Bemba sont des candidats uniques au poste partant du président au questeur adjoint. Notre invité, c'est Caleb Moukadi, expert technique à l'ITIE RDC. Il a présidé au Maniema les travaux de l'atelier des disséminations du rapport ITIE RDC exercice 2020-2021. Bonjour à tous. Avant le développement de tous ces titres, notez qu'en Ituri, environ 20 personnes sont mortes noyées, plus de 5 tonnes de marchandises importées de l'Ouganda sont englouties dans les eaux et plusieurs familles se sont déplacées. C'est la conséquence des vents violents qui soufflent depuis le mois d'avril sur le lac Albert. Affirmation du coordonnateur du service de la protection civile en Ituri. Selon lui, le phénomène est dû aux changements météorologiques et affecte le transport lacustre ainsi que les activités de pêche qui se font avec beaucoup de risques. Pour prévenir des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, Robert Njalonga recommande aux pêcheurs, aux transporteurs et aux clients de se munir chaque fois des gilets de sauvetage et de réduire leurs activités sur les lacs Albert. Il est au micro de Martial Kizabiamungo.
Pour ceux qui se décident ou s'engagent dans les transports ou dans les pêches, qu'ils prennent à compte ou bien en considération le port des gilets de sauvetage qui peuvent être un des éléments pouvant leur permettre de se sauver au cas où un incident leur arrivait avec le vent sur les lacs. Mais le mieux serait de préserver la vie parce que ce sont des faits naturels qu'on peut difficilement limité ou bloqué et qui peut arriver à tout moment. On a constaté qu'il y a des pirogues dont le temps est déjà vieilli où il est important aux propriétaires de renforcer le temps de résistance de ces pirogues parce que ce sont des pirogues qui cèdent facilement lorsqu'il y a le vent ou lorsqu'il y a du bagage. Et aussi, les transporteurs doivent respecter la charge.
Au nord Kivu, les 35 victimes des bombardements de Mugunga ont été inhumées hier mercredi. Ils reposent désormais dans leur dernière demeure à l'issue de la cérémonie des derniers hommages organisée au stade de l'unité à Goma. C'était en présence des délégations du gouvernement et du parlement, ainsi que des centaines des membres des familles de ces victimes. Un reportage de Gabriel Ouamina.
C'est autour de 15h locales que les convois mortuaires transportant les corps et les restes des corps pour certaines victimes non identifiées est arrivé sur l'esplanade du stade de l'unité. L'émotion et la consternation sont montées d'un cran lorsque ces corps furent placés l'un après l'autre dans les tentes brodées aux couleurs nationales. Prenant la parole, le ministre des Affaires sociales et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a dit que les crimes commis par les Rwandais en RDC ne resteront pas impunis. De son côté, le représentant des victimes a demandé et exigé dans son allocution la présence du chef de l'État à Goma pour mettre fin à la barbarie commise par les Rwandais. Enfin, le ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela, représentant du chef de l'État à ses obsèques, a une fois de plus condamné en affirmant que toutes ces atrocités commises depuis les RCD par les Rwandais ne resteront pas impunies. C'était avant les dépôts de gerbes et de fleurs devant les cercueils. Après, les convois mortuaires se dirigeaient vers les groupements des Kibati en territoire de Nyiragongo où les corps des victimes seront mis en terre dans un mémorial baptisé Génocoste par les autorités congolaises. Gabriel Ouamenya, Radio Kapi.
À l'occasion de ces obsèques, les survivants de ces bombardements du site de Lushagala ainsi que la 8e CEPAC dans le quartier Mugunga appellent le président Félix Tshisekedi à aller s'installer à Goma pour suivre, selon eux, de près les opérations militaires en cours contre le M23 appuyé par le Rwanda. Les propos de leurs représentants ont été recueillis par Gabriel Ouamenya.
Tangu vita ilianzia Bunagana, inafika Rutshuru.
Depuis que la guerre a commencé à Bunagana jusqu'à Rutshuru et Kiwanja, après Rutshuru, la guerre est arrivée chez nous à Sake. Nous nous sommes coincés à Goma. Donc si l'ennemi arrive à Goma, nous n'avons où aller, peut-être dans les lacs ou au Rwanda chez notre ennemi. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de déplacer la capitale ici à Goma et après la guerre, il peut rentrer à Kinshasa. Et troisièmement, nous remercions les CONAREP pour son assistance à notre faveur. Nous avons réussi des bâches, des couvertures, des bidons. Nous remercions énormément cette organisation.
Les crimes de guerre perpétrés sur le sol congolais par le Rwanda ne resteront pas impunis. C'est le message que le ministre des Droits humains a tenu à transmettre à la foule venue assister aux obsèques des victimes des bombardements du 3 mai. Pour Fabrice Pouella, le sang des Congolais n'est pas différent du sang des Ukrainiens. On l'écoute dans cet extrait proposé par Greta Lulendo.
Nous tenons, chers compatriotes du Nord-Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvais augure puissent rester impunies. Un génocide congolais pour des intérêts économiques, génocide, est perpétré dans notre pays par le Rwanda. Ces crimes de guerre, comme celui du 3 mai à Mugunga, des crimes contre l'humanité, ont tous été documentés, en commençant par les rapports Mapping et plusieurs autres rapports pointant clairement la responsabilité du Rwanda pour leur agression en territoire congolais. Du reste, les États-Unis, dont nous saluons la véracité pour cette fois, en ayant clairement dénoncé ces bombes venues du Rwanda. Le sang congolais vaut le sang des Ukrainiens. Le sang des Congolais vaut le sang des Français, des Belges, des Américains, des Zimbabwéens, des Sud-Africains, de partout ailleurs.
Cap vers la province de l'Ituri. L'heure est venue pour que les fils et filles de l'Ituri se pardonnent mutuellement et se réconcilient en vue de mettre fin au cycle de violence. C'est l'appel du gouverneur de l'Ituri hier mercredi aux acteurs de la société civile à l'occasion de l'ouverture de l'atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur la justice transitionnelle. Le lieutenant général Johnny Luboya déclare qu'après avoir organisé plusieurs missions d'itinérance sur le terrain, la majorité de la population exprime la volonté de voir l'Ituri tourner la page des conflits armés pour amorcer une nouvelle vie. Il affirme que l'Ituri regorge de plusieurs ressources dont sa population doit profiter. Il le dit au micro de Jean-Claude Lokidile.
Au niveau où nous sommes arrivés, il faut absolument qu'on parle de la réconciliation, qu'on parle du pardon. Parce que le niveau de la violence, aujourd'hui, les populations nous ont fait quand même confiance. Elles se font quand même aussi confiance aussi. Parce que tout ce que nous avons amené comme commission, que ce soit dans le Djougou, que ce soit dans les 5 territoires, on a vu expressément cette intention-là, hein, cette volonté-là de vouloir vivre ensemble. Alors il ne faudrait pas qu'on casse cela. Et ça, c'est vraiment une opportunité qui est donnée aux enfants de l'Ituri pour avoir, n'est-ce pas, s'approprier ce message et pour aller le répandre partout. Et il s'agit bien de la justice transitionnelle. Et la réparation, évidemment, après, parce qu'il y aura la réparation.
Et puis l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, recuse la démarche de l'État congolais visant l'extradition de Roger Lumbala, poursuivi par la justice française pour crimes contre l'humanité. Dans un entretien accordé hier à Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure dit redouter que la démarche congolaise entrave la poursuite normale de cette procédure judiciaire. Il souhaite que la Cour d'appel de Paris aille jusqu'au bout afin que Roger Lumbala réponde de ses actes. Mirande Moulumba est au téléphone de Blaise Ndonga.
L'enquête initiée par l'État congolais ne peut bénéficier que la fin de non-recevoir par la juridiction française parce que vouloir extrader M. Roger Lumbala au Congo afin qu'il réponde de ses actes, je trouve que la France aurait cautionné l'impunité et nous trouvons que par le principe de la solidarité internationale, que la Cour parisienne serait mieux placée pour devoir de poursuivre ces derniers afin qu'il réponde de ses actes. Parce qu'il est vrai que, le cadre juridique international a cessé d'être une loi de coexistence, mais pour devenir une loi de coopération, qui avait nécessité, au regard de l'érosion de temps pris par le cours devoir poursuivre ces derniers. Pour le reste, je ne peux que implorer, n'est-ce pas, la bonne volonté des autorités judiciaires françaises que la procédure suive son cours normal et que aujourd'hui l'Association nationale de victimes est dispo pour devoir partager certains éléments informationnels que la Cour va devoir juger utiles pour la bonne rationalité tout au long de cette procédure.
Publication hier tard dans la nuit des candidatures retenues pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Seules les candidatures du Présidium de l'Union sacrée sont retenues et toutes les autres candidatures rejetées. Vital Kamere, Jean-Claude Tshilumbay, Christophe Mbosso, Jacques Joly, Chimène Polipoli et Caroline Bemba sont candidats uniques au poste allant de président au questeur adjoint. Une véritable élection aura lieu pour départager Dominique Munongo d'Ensemble et Constant Mutamba de Dipro au poste des rapporteurs adjoints revenant à l'opposition, ce qui suscite la révolte de certains députés qui ont initié une pétition contre le président du bureau provisoire, Michel Kifindangoy.
Signée par une cinquantaine de députés, cette pétition vise la tête de Christophe Mbosso, accusé d'irrégularité délibérée dans l'organisation des élections. Les pétitionnaires dénoncent notamment la composition arbitraire d'une commission jugée partisane d'examen et de validation des candidatures sans l'aval de la plénière. Ils reprochent aussi à Mbosso un conflit d'intérêts en écartant, grâce à sa commission, toutes les candidatures lui faisant ombrage en violation du règlement intérieur. Ces députés soutiennent donc la suspension du candidat deuxième vice-président Christophe Mbosso de ses fonctions de président du bureau d'âge, la dissolution de la dite commission et la mise en place d'une nouvelle commission ainsi que la réhabilitation immédiate des candidatures écartées. Notez que la commission a retenu comme candidat Vital Kamerhe à la présidence, Jean-Claude Tshilumbay et Christophe Mbosso à la première et deuxième vice-présidence, Jacques Joly au poste de rapporteur, Chimène Polipoli questeur et Caroline Bemba questeur adjointe.
Au Kasaï central, après avoir suspendu le ministre provincial des Finances, Jim Mukenge, le gouverneur intérimaire le met à la disposition de l'Assemblée provinciale par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Dans une communication faite à la presse ce mercredi à Kananga, Martin Makita explique que ce membre du gouvernement provincial a produit les imprimés de valeur de la DGRCAC sans associer cette direction. L'incriminé a décidé de gérer unilatéralement ses reçus, les envoyer sur le terrain et demander que l'argent lui soit versé, a expliqué l'autorité provinciale. Martin Makita est dans ses propos recueillis par François Kadima.
Il est de principe que, avant que les carnets descendent sur le terrain, ça doit porter les sceaux secs de la province, les sceaux de la DGRCAC et les sceaux du ministère. Mais par contre, le ministre n'a pas associé la DGRCAC, n'a pas associé le cabinet du gouverneur. Il a géré ses imprimés seul, d'une façon unilatérale. Et c'était une façon de favoriser le courage des recettes, parce que les gens qui prenaient les reçus, ce sont les carnets de reçus qui n'avaient même pas de série, pas de numéro. Alors, on a cherché à avoir clé dans ce dossier. Le ministre n'a pas été coopérant, il n'a pas voulu répondre à notre invitation. C'est ainsi que nous avons réuni tous les faits et on lui a collé une suspension. Ce n'est pas seulement une suspension, nous allons aller plus loin parce que l'Assemblée doit l'enquêter, doit l'entendre sur tous les faits. Mais s'il a raison, il n'a qu'à aller prouver ça devant l'Assemblée.
De son côté, le ministre provincial des Finances, qui avait même suspendu les directeurs de la DGRCAC et son adjoint, indique dans une lettre ne pas reconnaître cette suspension qu'il qualifie d'illégale.
Actualité internationale.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué hier un projet de loi visant à restructurer le système de santé pour lutter contre les profondes inégalités, mais il se heurte à des contestations juridiques de la part des critiques. La loi introduit ce que l'on appelle l'assurance maladie nationale, qui devra fournir des fonds à tous les Sud-Africains pour accéder aux soins de santé primaire. Vladimir Poutine est arrivé ce jeudi en Chine pour une visite de 2 jours pendant laquelle il doit rencontrer son homologue Xi Jinping et tenter d'obtenir un soutien plus appuyé à son effort de guerre contre l'Ukraine. Selon des images diffusées à la télévision russe, le chef du Kremlin a été accueilli à Pékin à la descente de son avion par des officiels chinois et une garde d'honneur. Il s'agit du premier voyage à l'étranger de Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de 6 mois.
L'invité.
Notre invité s'appelle Caleb Moukadi, il est expert technique à l'ITIE RDC. En séjour au Maniema, il a présidé les travaux de l'atelier des disséminations du rapport ITIE RDC, exercice 2020-2021 et ses compléments. Caleb Moukadi répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Caleb Moukadi, bonjour.
Bonjour madame.
Quelles sont les grandes innovations contenues dans ces rapports dont vous faites la dissémination aujourd'hui?
Merci beaucoup madame. Ce rapport 2020-2021 que nous disséminons à travers les parties prenantes aujourd'hui dans la ville de Kindu a le mérite de pouvoir ramasser comme complément les questions sur l'artisanat minier des deux filières principales, la filière de 3T or et la filière de cuivre et cobalt, ainsi que de revenir sur les questions socio-environnementales liées à l'exploitation des ressources naturelles minières comme nous sommes dans la province du Maniema.
Est-ce que dans ce rapport, on cite les Maniema? Si oui, à quel niveau?
Oui, la province du Maniema est citée dans le rapport ITE 2020-2021, notamment à travers la production dans les 3T or. Il y a des entités de traitement, il y a des entreprises aussi bien du portefeuille comme la Sakima, aussi bien que les entreprises privées et les entités de traitement, mais aussi le rapport fait mention également de la DGERMA qui perçoit certaines ressources, notamment la redevance minière, de même aussi certaines ETD, donc des entités territoriales décentralisées qui bénéficient d'une quote-part de la redevance minière.
Et ce n'est pas le premier rapport ITIE-RDC faisant objet des disséminations. Est-ce qu'il y a des résultats positifs ici, des autres rapports déjà disséminés?
Effectivement, il y a des résultats positifs par rapport à d'autres rapports déjà disséminés, déjà publiés. Comme vous le savez, à chaque fois que l'ITIE publie un rapport, à l'intérieur de ce rapport se trouvent des recommandations. Et ces recommandations, lorsqu'elles sont suivies, elles permettent d'améliorer la gouvernance. Nous avons cité parmi les améliorations de la gouvernance, il y a eu par exemple la prise d'un décret du Premier ministre qui a permis de pouvoir organiser, réorganiser la collecte et la répartition de revenus liés à la redevance minière pour les ETD. C'est à l'issue du débat entre les parties prenantes qu'on a trouvé que les parties prenantes se sont mises d'accord sur certaines dispositions qui peuvent améliorer la collecte et la répartition de la redevance minière des ETD.
Alors, quel état des lieux faites-vous en se référant au rapport sur les contributions des industries extractives du maniement sur les trésors publics?
Il faut le dire. Toutes les entreprises sur tout le territoire national contribuent au trésor public, notamment lorsqu'elles payent des revenus aux régies financières nationales, donc la DGI, la DGRAD et la DGDA, et que ces revenus sont versés directement dans les trésors publics à travers l'affectation des revenus. Donc, d'une manière ou d'une autre, toute entreprise qui paye des revenus à la DGI, à la DGRAD, à la DGDA, il y a une quote-part qui revient au trésor public. Donc, effectivement, les entreprises du Maniema contribuent également au trésor public central et contribuent également aux ressources de la province et des ETD à travers notamment la redevance minière.
Vous visez quoi en organisant ces ateliers de dissémination de rapports ITIE-RDC?
En fait, conformément à la norme ITIE, lorsqu'un rapport est publié, il doit être largement disséminé à la population parce que c'est en fait la population qui est le vrai propriétaire des ressources naturelles, aussi bien des mines que des hydrocarbures. Donc, lorsque les rapports sont publiés, il doit être largement partagé, largement expliqué et disséminé à la population. Et cette dissémination doit normalement permettre à la population de s'approprier des contenus du rapport afin qu'elle puisse mener un débat citoyen avec les données et les informations qui sont contenues dans ces rapports et que ce débat puisse permettre de pouvoir, s'il y a lieu, impulser l'amélioration de la gouvernance de nos ressources naturelles et des revenus que ces ressources génèrent.
Alors, à l'issue de ces assises, quelles sont les grandes conclusions de cette rencontre?
À l'issue de ces rencontres qui ont duré 3 jours, nous avons reçu une large participation des entités de l'État, aussi bien du gouvernement provincial que des ETD, des entreprises, aussi bien de la société civile. Et toutes ces parties ont été informées du contenu du rapport et ont été amenées à pouvoir analyser de manière pertinente les informations qui sont contenues dans le rapport afin de pouvoir appliquer les recommandations dans leurs juridictions, dans leurs entités, dans leurs entreprises respectives. Notamment en ce qui concerne les entreprises extractives, il leur a été dit de pouvoir se conformer aux obligations sociales et environnementales et aux ETD de pouvoir se conformer à ce que prévoient les lois par rapport à la gestion des revenus issus du secteur extractif qui sont des revenus publics, qui sont en fait des finances publiques et donc qui doivent être gérés conformément aux lois, notamment à la loi des finances publiques.
Qu'est-ce qui suivra après cet exercice?
Après cet exercice, en fait, chaque entité qui a participé à ces assises va aussi aller partager le contenu de ces assises, mais aussi le comité national est en train de rédiger le rapport ITIE 2022.
Monsieur Caleb Moukandi, merci.
Je vous remercie, madame.
Et c'est par cet entretien entre Caleb Mukadi, expert technique à l'ITIE RDC, et Florence Kizalunga depuis le Maniema que prend fin à cette édition d'information en langue française sur Radio Okapi. Merci de l'avoir suivi.